Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans l'émission d'aujourd'hui, on va faire des prédictions pour la WWDC d'Apple. On va aussi couvrir des sujets sérieux comme Pim Eyes qui retrouve vos photos partout, que vous le vouliez ou non, et aussi Honor Lock qui espionne et trouve les étudiants qui trichent, ou peut-être même ceux qui ne trichent pas. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech en live sur Twitch le mardi midi ou en podcast en replay. C'est d'ailleurs la plupart d'entre vous qui nous écoutent comme ça. C'est l'épisode numéro 461. On est en mai, j'ai failli dire mars, mai 2022. Je suis Patrick Béja, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un programme, on va dire, un petit peu différent d'habitude parce que, comme souvent, lors d'une conférence d'Apple, eh ben, la semaine d'avant, il y a le reflux des vagues et plus personne ne veut rien annoncer pour pas se faire noyer dans l'ouragan des news d'Apple. Pour le coup, c'est dans une semaine, donc on va pouvoir faire des prédictions dont on ne saura pas qu'elles sont fausses dans les deux heures qui suivent. On a un petit peu plus de temps pour nos prédictions cette fois-ci, c'est rare, donc on va en profiter. Bon, on va faire ça en cinq minutes. Et puis, on a aussi des sujets hyper intéressants à explorer un peu plus profondément, justement. C'est l'occasion, puisqu'on a moins de news hyper, comment dire, hyper actives cette semaine. Et tout ça, c'est évidemment grâce à vous, grâce aux Patriotes. On a des nouveaux Patriotes à remercier. On a Wensi Chie, je pense que je le lis bien, mais je ne suis pas sûr. C'est un nom qui semble être chinois. Donc, merci à toi, Wensi. Aurélien Bonnet, merci à toi aussi. Et les producteurs, Olivier Maury et Stéphane Lioret. Merci à vous quatre, les deux nouveaux Patriotes qu'on applaudit très, très fort. Attendez, je vais vous... Oh, on m'a dit que le nouveau volume était plutôt pas mal, donc voilà. Le nouveau, je ne sais pas si j'ai réglé le volume pour celui-là. On va refaire un petit peu d'applaudissements. Un peu plus, ça c'est pour les producteurs qui sont eux un petit peu moins, comment dire, on a l'habitude. Donc voilà, c'est juste les applaudissements. Merci à vous tous, patreon.com/rdvjeux. Et surtout, merci à Mathilde et Maxime qui nous rejoignent aujourd'hui pour cet épisode. Alors on va commencer par dire, on est, comment dire, Maxime, allez, j'ai hésité, mais c'est Maxime, alias Otaksu, Maxime Lancelin Golberry. Mais quel magnifique...
C'est bien, waouh, tu l'as prononcé bien pour la première fois, c'est beau, ça m'arrive très rarement ça pour le coup. Oui, écoute, généralement les gens disent Golberry, je sais pas
Golberry,
pourquoi.
Non, Golberry, c'est pas que Béja ça soit pas beau, mais Lancelin Golberry. Oh, magnifique. Comment ça va, Maxime?
Ah, ça sonne bien. Mais ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est désolé de te mettre un petit coup de vieux, mais c'est vrai que ça fait un petit quelque chose d'être à tes côtés après avoir écouté Azeroth pendant très très longtemps, tu vois.
Alors,
je sais que c'est derrière toi aujourd'hui, tu vois, mais...
Oh, tu sais, Azeroth est toujours dans notre cœur, hein. Azeroth.fr, c'est un podcast qui ne quitte jamais ceux qui l'ont écouté. Et effectivement, on dévoile les dessous de la préparation de l'émission. Je t'ai contacté en disant, mais Otaksu, je me souviens de toi à l'époque d'Azeroth.fr. C'était peut-être un nom qui traînait dans les forums. Tu devais être, je sais pas, à l'école primaire, un truc comme ça.
Ouais, ça, franchement, ça remonte, hein, vraiment. Bah, peut-être collège ou un truc comme ça, mais effectivement, je traînais du côté de No Watch. Aujourd'hui, avec l'évolution que j'ai pu rencontrer 2-3 des anciens de l'équipe, tu vois, ça fait toujours c'est un peu ça. Bizarre, mais c'est super cool.
Tout à fait. Donc, on est heureux de t'avoir avec nous. Et je vais te demander de te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas, puisque c'est la première fois que tu es dans l'émission. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? D'où viens-tu?
C'est vrai. En fait, Maxime Otaksu, hein, tout simplement, je suis journaliste tech depuis bien une dizaine d'années maintenant. Les gens me connaissent surtout parce que j'étais chez Frandroid, où à l'époque j'étais responsable YouTube. Aujourd'hui, ça a été repris par une équipe bien tout à fait excellente, hein, je n'ai absolument rien à dire. Et aujourd'hui, donc je suis en indépendant, je bosse pour pas mal de sites, dont Frandroid d'ailleurs, je vois Griffo et Cassim dans le chat, je leur fais des bisous. Et on me retrouve aussi dans le journal du hardware sur le stream.
Tout à fait. Merci beaucoup à toi de te joindre à nous. Et on a également l'honneur illustre de recevoir Mathilde Saliou, qui se joint à nous pour la première fois aussi, c'est plein de premières. Salut Mathilde, comment vas-tu ?
Salut, très bien, trop d'honneur pour moi aussi d'être ici, merci pour l'invitation.
Mais avec plaisir. Je te propose le même exercice. Alors toi, t'écoutais pas Azeroth.fr, hein, je sais pas, mais je me suis...
Non. Je me suis sentie un peu, genre... Je me suis dit, je vais avoir le même âge à peu près à la même période, mais j'avais moins accès à Internet.
Non, mais en fait, c'est une bonne marque, ça prouve que tu avais une vie sociale et que tu jouais pas à World of Warcraft, donc sois-en fier, tu vois.
Mais en même temps, tu sais, il n'est jamais trop tard pour aller écouter cette émission, hein. Elle est archivée, elle est disponible partout. Mais
l'histoire numérique.
C'est ça. Avant ça, quand même, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, tout ça ?
Ouais, je suis journaliste moi aussi, journaliste tech, ça fait 8 ans que j'écris sur ces sujets. J'ai aussi bien bossé pour des médias très pro comme un titre qui s'appelle Mind FinTech, où je m'amusais à décortiquer ce que les GAFAM et les Batix, Baidu, Alibaba et les autres faisaient dans l'univers financier, que pour des trucs beaucoup plus grand public. En ce moment où je suis pigiste, je bosse pas mal pour Numérama, 20 minutes, Slate un peu aussi. Et n'importe qui veut travailler avec moi, ma foi.
C'est parfait. Mais justement, on a un article que tu as écrit qui est au programme un petit peu plus tard dans l'émission, qui me donnera l'occasion de parler d'un sujet dont je voulais parler depuis un moment, mais on en parlera tout à l'heure. Merci d'être là avec nous. Je mentionne que Otaksu, dans la préparation, nous disait « Yo, dispo quand vous voulez pour n'importe quoi ». Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais pour n'importe
moi,
quoi.
Moi, je suis un gars content d'être là, tu vois.
C'est bien. Est-ce que Mathilde, tu es contente d'être là aussi ? On se lance ?
Je suis ravie.
Ravie, magnifique. Eh bien, on se lance dans les infos de la semaine avec d'abord Apple et la WWDC, la conférence développeur qui arrive la semaine prochaine. C'est souvent l'occasion pour eux de... toujours l'occasion pour eux de dévoiler les nouvelles versions des OS, donc iOS, iPadOS, Apple TVOS, WatchOS, etc. Et donc, d'amener sur le devant de la scène pour les développeurs, ostensiblement, mais aussi pour le public, les nouvelles fonctionnalités de leurs appareils et de leurs OS. Et du coup, les spéculations commencent. Alors, on va le faire, on ne va pas y passer 2 heures parce qu'on y passera un moment la semaine prochaine quand la conférence aura effectivement eu lieu lundi prochain. Mais juste bon, pour se faire un petit peu plaisir, un petit bonbon de gadgeterie. Les rumeurs qu'on a en ce moment, c'est une mise à jour substantielle de iOS. Donc, l'iPhone aurait un certain nombre de nouveautés, notamment avec les notifications qui seraient pas mal changées. Et d'une manière générale, l'écran de veille qui serait un petit peu retravaillé. Il y aurait des fonds d'écran avec des sortes de fonctions widget. Hein. On ne sait pas exactement à quoi ça correspondra, mais c'est ce que nous dit Mark Gurman, qui se trompe rarement sur ces sujets de Mark Gurman de Bloomberg. On a aussi des changements sur iMessage avec des fonctions un petit peu genre plus réseaux sociaux-like, surtout pour de l'audio. C'est vrai que iMessage est un facteur important sur iOS et donc peut-être qu'ils le font évoluer régulièrement. Enfin, ils le font évoluer régulièrement. Donc là, il y aurait un petit peu plus de possibilités de partage, peut-être de groupes de discussion, ce genre de choses. Et puis, surtout pour l'iPad, un changement substantiel pour le multitâche et le fenêtrage. Alors peut-être qu'on pourra avoir encore plus de fenêtres, c'est parfois un petit peu le foutoir. Hein. Déjà quand on a 2 ou 3 fenêtres sur iPad, je ne sais pas comment ils vont pouvoir en faire plus, mais c'est ce qui semble être prévu. Donc multitâche et fenêtrage pour le rendre encore plus pro.
Je pense que c'est de ce côté-là en fait où il y a le plus d'évolution à faire, parce que je pense que les OS mobiles aujourd'hui arrivent à une certaine stabilisation. Généralement les plus gros changements maintenant sont assez esthétiques ou alors sont en ligne avec ce qu'a fait le concurrent, alors que iPadOS il y a encore beaucoup à creuser, beaucoup à faire, donc je pense que c'est là-dessus qu'on aura les plus belles surprises en vérité.
C'est très possible, moi j'avoue que ça me, en théorie ça pourrait me plaire, mais en pratique je me rends compte que quand j'ai 2 fenêtres à l'écran et une fenêtre en slide-over, c'est comme ça que ça s'appelle, et puis la vidéo de YouTube qui est dans un coin, et qu'en plus j'amène le clavier virtuel, on ne voit plus rien de ce qui se passe. Quoi. C'est un peu... Donc je sais, peut-être qu'ils pourront streamliner tout ça, c'est possible. Mais à ce stade, je suis, alors que je serai parmi les premiers à réclamer plus de fenêtrage sur iPad, et sur iPhone, j'en parle même pas, mais je me demande si ça peut être bien géré. On verra. Et il y a d'ailleurs, à propos d'écran de veille, une fonctionnalité possible pour les iPhone 14 Pro uniquement, donc qui seront annoncés à la rentrée, qui serait l'écran toujours allumé, comme on le voit sur les Apple Watch, les dernières Apple Watch. L'écran toujours allumé avec...
Pour les Samsung,
oui, bien, oui,
tout ça.
Évidemment. Apple fait enfin ce qu'a Android depuis des années, c'est un truc qu'on dit souvent. Et donc, un écran toujours allumé avec des fonctions, des trucs sur l'écran, mais uniquement sur le modèle Pro. Et possiblement. Ah oui, il y aurait aussi sur la Watch des updates de navigation, de l'app santé qui serait beaucoup mise à jour, et puis un mode basse consommation pour la Watch, peut-être pour pouvoir l'utiliser plus longtemps qu'une journée. Et certains pensent que, enfin certains, encore Mark Gurman, hein, nous dit qu'il y aurait possiblement le fameux redesign du MacBook Air avec un processeur M2, sauf que Min-Chi Kuo, l'autre grand expert de la chaîne d'approvisionnement Apple, dit que ils ont du mal avec leur processeur. Ils restent sur un process 5 nanomètres et donc ils pensent qu'on risque de ne pas voir le véritable processeur M2 avant possiblement l'année prochaine, et que du coup, s'il y a effectivement un redesign du MacBook Air, il serait possiblement avec le processeur M1. Toujours comme l'année dernière, et peut-être un M1 un peu tweaké pour l'appeler M2, mais qui ne serait pas vraiment un M2, enfin on verra ça. Bon, voilà.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on va devoir vérifier surtout, c'est est-ce qu'ils n'utilisent pas le nom comme ça, quoi.
Exactement.
Bravo, très bon choix.
et du coup, bon, quelque chose... Mathilde, je crois que tu n'es pas du tout iPhone, hein.
Non, clairement, je suis une grosse utilisatrice de tout ce qui fonctionne sous Android.
Android. Bon, donc avec Maxime, vous êtes des Luddites. donc vous n'êtes pas vous n'êtes pas parmi les personnes éclairées qui sont dans le monde iOS. Donc je vais couper la conversation immédiatement et on en reparlera dans une semaine quand on aura eu cette conférence. Bon, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez, hein, sur ce qu'on attend. J'avoue que je suis un petit peu sur la... Vas-y.
En fait, avec Apple, il y a un petit truc où je suis assez curieux, parce que j'y crois pas trop à des annonces hardware du Mac Pro ou ce genre de choses. Par contre, ce serait cool. J'appelle de mes voeux une petite présentation du casque ARVR qui est en rumeur depuis très longtemps. Ça m'étonnerait pas qu'il soit présenté une première fois au WWDC, parce que ça appellerait les développeurs à commencer à réfléchir à des applications, des trucs comme ça. C'est surtout là-dessus, dans un petit peu l'amour de la nouvelle technologie, tu vois, que j'attends un peu Apple. Après, pour le reste, ouais, je pense que ça va être un petit peu en ligne de l'évolution progressive qu'on a depuis quelques années maintenant. Donc, je vais être curieux sans être hyper hypé, mais le casque, j'aimerais bien.
C'est vrai qu'il y a une possibilité qu'on voit ce fameux casque dont on entend parler depuis longtemps, c'est que c'est une conférence pour développeurs, et s'ils veulent sortir le produit d'ici la fin de l'année, il faut peut-être en informer les développeurs pour qu'ils développent des trucs dessus, même si ce dont on entend parler, c'est un casque qui est destiné aux développeurs à la base, donc peut-être qu'ils feront une conférence spécifique en disant « c'est pas un casque pour tout le monde, les développeurs, vous pouvez commencer à travailler dessus, on a un produit genre DevKit qu'on peut vous vendre, bien sûr, mais ça serait une autre conférence dédiée, mais c'est possible, on verra. » Bon, deux gros sujets que je voulais traiter, qui sont issus du New York Times, en fait. Ils ont une série d'articles cette semaine qui sont vraiment intéressants. Et le premier, c'est le sujet de PIM Eyes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de PIM Eyes? Bon, je vous dis ça, vous avez le doc des notes devant les yeux, tous les deux. Donc,
Effectivement. Mais je n'avais pas entendu parler avant de voir ton document ou tous les articles que tu veux traiter.
C'est bien.
Oui, de même.
Mais ouais, ça a l'air assez...
Je vais faire une petite présentation. PIM Eyes, je vais être honnête, hein, je ne connaissais pas non plus. Je connais, par contre... comment il s'appelle le truc
Clearview.ai.
Clearview, merci Mathilde. Clearview.ai, alors c'est un petit peu pareil. En fait, PIM Eyes, c'est un service qui vous propose d'uploader une photo d'une personne. A priori, c'est censé être vous uniquement. Et une fois que vous avez uploadé cette photo, il va retrouver sur Internet toutes les photos de cette personne qu'il peut trouver. C'est un petit peu, comme on le disait, ce que fait Clearview.ai, sauf que Clearview.ai est vendu uniquement aux forces de l'ordre, a priori, vendu uniquement aux forces de l'ordre, et il cherche également les photos sur les réseaux sociaux. Là, c'est pas sur ça qu'il se concentre, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur tout le web, en dehors des réseaux sociaux. Et ce qui est surprenant, c'est que l'enquête du New York Times révèle que, d'une part, ça fonctionne même quand on a des photos qui sont de biais, avec des lunettes de soleil, etc. Et qu'on va retrouver les personnes, on va retrouver des photos de ces personnes, toutes les photos qui existent, où qu'elles soient sur le web, y compris des photos que ces personnes-là ne connaissait pas ou dont elle ne se souvenait pas peut-être, mais même des photos qu'elle ne connaissait pas. Il donne l'exemple de quelqu'un qui avait fait appel à un photographe professionnel pour son mariage et elle a retrouvé la photo utilisée comme, dans le book de la personne et c'était une photo qu'elle ne connaissait pas. Il y a plein d'exemples de ce type-là, des photos. Il y avait une personne qui avait aussi expliqué qu'elle avait retrouvé, c'est une journaliste donc du New York Times, elle avait retrouvé une photo d'elle à un concert en train de crowdsurfer sur un blog obscur des années 2010 en France. Et elle, c'est une Américaine, et elle avait retrouvé cette photo en France. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que ce service permet de retrouver vraiment des photos. Il est tellement bon, et la reconnaissance faciale, qui est d'ailleurs la reconnaissance faciale proposée par Amazon avec son service Recognition, mais il est tellement bon dans son service qu'il retrouve même les photos dont vous n'aviez pas connaissance sur le web. Et là où ça devient un petit peu vicieux, alors sûr qu'on va parler des potentiels de harcèlement dans un instant, mais là où ça devient un petit peu vicieux dans le système de PimEyes, c'est que si jamais vous ne voulez pas faire partie de leur base de données, eh ben, soit il faut passer par un processus un petit peu capillotracté et puis qui était un petit peu caché jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Il faut envoyer pour chaque requête, pour chaque photo, une requête différente. Soit il faut payer une somme qui va de 90 à 300 dollars par mois en fonction du niveau de service que vous voulez. Et du coup, il va vous retirer de leur base de données, mais il va retirer les photos une à une. Et vous pouvez demander à ce qu'elles ne soient pas indexées, en gros. Mais pour ça, pour le faire de manière raisonnable, il faut payer. Donc, certains disent que c'est un petit peu de l'extorsion. De l'autre côté, M. Gobrandije, qui... prononce pas bien, mais Gobrandije, j'imagine, qui est la personne qui a racheté ce service, dit « Oui, ça peut être utilisé pour des choses qui sont peut-être pas très recommandables. » Et effectivement, on a normalement une politique, enfin des règles qui disent que vous ne pouvez chercher que votre propre visage, même s'ils n'ont aucune protection sur le site pour s'assurer que c'est bien le cas, mais en théorie, vous ne pouvez chercher que votre propre visage. Il dit, regardez, on a pu s'en servir aussi pour des choses qu'on cautionne. Alors, il ne cautionne pas, par exemple, l'utilisation en Ukraine par les forces russes, ce genre de choses, mais, et d'ailleurs, il a bloqué la chose, mais l'invasion du Capitole du 6 janvier, ça a été utile pour retrouver certaines personnes qui avaient été présentes lors de cette insurrection. Donc, bon, il défend la chose comme ça. Clairement, le service est très facile à utiliser pour retrouver un petit peu n'importe qui et ça pose des questions au-delà de ce qui est une sorte de chantage si on veut faire retirer les photos de leur index en payant. Ça pose des questions encore plus préoccupantes. Je vais peut-être poser la question à Mathilde. C'est l'outil parfait pour le stalking, non ?
Ah, c'est un cata, ce truc. J'ai oublié de dire un truc quand je me suis présentée, d'ailleurs, parce que c'est quand même important. Je suis en train de terminer la rédaction d'un livre sur le monde de la tech au prisme des questions d'inclusion. Donc, beaucoup égalité homme-femme, aussi questions raciales, questions d'accueil des personnes avec des handicaps, etc. Et bref, ça m'a beaucoup fait travailler sur les questions algorithmiques. Donc, il y a un seul truc positif que je vois chez PimEyes, c'est que visiblement, ça semble fonctionner aussi bien sur les peaux noires que les peaux blanches, mais c'est un peu, enfin, c'est catastrophique.
On va en parler de ce problème spécifiquement dans le sujet suivant, mais ouais, sur Pima, ouais. Au moins ça marche. Hein.
Mais là, tu as parlé de Clearview, par exemple. Il me semble qu'au départ, c'était accessible à tout le monde et que c'est après un grand énervement public, etc., qu'ils ont réduit leur clientèle uniquement aux forces de police. Donc, je me demande ce qui va se passer pour ce service-là, parce que ce serait étonnant qu'on n'ait pas le même genre de levée de bouclier, je me dis, mais en fait, je ne sais rien, on va voir.
Oui, peut-être. Tu peux parler un peu plus fort dans le micro, s'il te plaît, Mathilde.
Ouais, pardon. Après, le fait de payer, qu'il faille payer 300 euros, en plus, par mois, j'avais loupé le fait que c'était un abonnement.
Mais oui, bien sûr, évidemment, en service.
C'est, en fait, c'est pas à la portée de tout le monde de payer cette somme-là en permanence. L'autre option que tu disais, aller faire des requêtes pour enlever chaque image, ça sous-entend qu'on serait au courant de chacune des images de nous qui traînent en ligne. Or, dans les exemples, il y a aussi cette journaliste qui se retrouve en arrière-plan d'une photo d'un autre touriste dans un aéroport grec. À aucun moment, je sais qu'il y a des photos de moi qui traînent en arrière-plan de photos de touristes. Enfin, c'est impossible, en fait.
Eh bien, en fait, si. Mais si, mais bien sûr. Enfin, Mathilde, c'est très simple. Tu utilises le service.
Tu peux utiliser
Pima. Voilà. Et quand tu trouves les photos, tu peux avoir les ID des photos, même si tu peux pas les voir. Pour accéder aux photos, il faut payer. Et pour accéder au site en question, il faut payer. Donc, mais tu as l'ID. Donc, tu peux aller faire ensuite tes requêtes une à une pour les faire supprimer. Donc, et il faut les refaire. Après, il faut faire les recherches tout le temps, hein, parce qu'il y en a de nouvelles qui arrivent peut-être.
Mais après, il y a une autre histoire intéressante aussi, c'est celle de Cher Scarlett, qui habituellement est plus connue parce qu'elle poussait pour la syndicalisation au sein de Apple. Mais là, elle est citée parce qu'elle a eu un passé, elle a fait une expérience dans le milieu X qui s'est très mal passée et qu'elle pensait avoir oublié, avoir passé derrière elle et tout, et ne plus jamais devoir en entendre parler. Et en fait, avec Pimiles, on retrouve des photos de la seule fois où elle est allée faire des tests caméra pour, je sais pas exactement ce que c'était, mais je crois comprendre que c'était un film X. Et en fait, là, on reboucle avec des histoires aussi de « il est impossible d'oublier son passé sur Internet », enfin, assez compliqué, et généralement plus compliqué encore pour les femmes, parce qu'effectivement, dès qu'elles veulent se faire stalker, enfin, elles veulent pas, dès qu'elles se font stalker, elles sont beaucoup plus souvent victimes de harcèlement que les mecs, et elles ne peuvent pas échapper à des choses qu'elles auraient laissé traîner en ligne il y a 12 000 ans.
Et c'est même encore plus que ça. Moi, ce qui me préoccupe, enfin ce qui m'inquiète, ce que je peux voir, c'est il est tellement bon pour reconnaître les visages, même comme on disait avec des masques, avec des lunettes de soleil, etc. On voit une personne, une personne qui vit dans le quartier ou qui est bon, on prend une photo et puis on la retrouve avec Pimiles. Et clairement, enfin c'est, ils le disent pas, mais c'est clairement un usage de ce genre de choses. D'ailleurs, certains témoignent du fait que ils s'en servent pour des personnes qui vont tweeter quelque chose et qui utilisent leur photo mais pas leur vrai nom, ou des candidats potentiels à un emploi. Bon, c'est peut-être pas différent de googler la personne, mais on prend la photo et puis on peut retrouver plein d'infos sur la personne. Et comme tu le dis, c'est pas très surprenant. Pour les femmes en particulier, ça peut être un outil de harcèlement qui est hyper dommageable, parce qu'on retrouve tout sur la personne hyper facilement. C'est plus encore qu'une recherche Google, parce qu'une recherche Google, c'est associé au nom. Et là, ça étend, disons, le champ des possibilités pour ça, quoi.
C'est vrai que là, tu casses toute possibilité de pseudonymat, anonymat, toutes les questions qu'il y a habituellement sur d'autres sujets, on va les retrouver ici.
C'est ça, c'est-à-dire encore le pseudonymat, tu peux utiliser un nom qui n'est pas le tien, mais bon, ton visage, alors il faut cacher ton visage tout le temps bref, c'est... Maxime, tu voulais ajouter quelque chose sur
ce... Oui, parce qu'il y a un truc qui me... Je suis évidemment parfaitement d'accord avec tout le monde sur cette question. Mais il y a un truc qui me titille, moi, c'est qu'on a quand même... il me semble que c'est développé sur le droit européen, d'ailleurs, le droit à l'oubli. Donc, qu'est-ce qui justifierait de payer pour quelque chose qui est normalement légal ? Le droit à l'oubli, hein, pour rappel, c'est l'idée de demander aux référenceurs, aux hébergeurs, d'effacer des données qui nous concernent. Ça, c'est gratuit, hein, normalement, et c'est un des droits fondamentaux d'Internet qu'on a aujourd'hui. Que Pimiles vienne carrément nous faire payer pour ça, c'est une absolue honte, en fait.
Alors, pour le coup, je... Pour être clair, encore une fois, il y a un outil qui est un petit peu caché, mais qui existe, qui permet de demander le retrait d'une photo de leur base de données. Donc, techniquement, tu vois, ils sont en accord avec la loi. Le problème essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le droit à l'oubli, concrètement, on parle de quoi ? On va parler de Google. Allez, c'est à peu près l'interlocuteur auquel il faut s'adresser pour s'assurer qu'il soit un petit peu plus difficile de retrouver les informations qu'on ne veut plus qu'on retrouve. Le problème qu'on a là, c'est que ça multiplie les faisceaux de recherche d'informations. En plus du fait que c'est uniquement par photo, bah, le droit à l'oubli, ça va être... la personne qui va vouloir faire supprimer un contenu des moteurs de recherche, il va devoir aller chez Google pour les trucs de recherche web classique, chez PMIs pour les photos, et puis bon, peut-être qu'ils devront se soumettre un petit peu plus à la loi en faisant les choses un peu différemment. D'ailleurs, en Allemagne, il y a une procédure qui a visiblement été lancée, une enquête sur PMIs, bon, donc peut-être que ça changera, mais bon. Bref, c'est un sujet que j'avais trouvé intéressant dans le rapport du New York Times et qui est franchement, oui, inquiétant. Enfin, c'est préoccupant, on va dire. Moi, je suis une personne relativement
timide,
ça ne me gêne pas plus que ça. Mais oui, pardon, Mathilde.
Bah, je trouve que qu'on en soit encore à avoir des fondateurs de boîtes qui justifient leur techno en disant oui, bien sûr, il va y avoir des usages négatifs, mais regardez tel et tel usage positif. Et finalement, en plus, on n'a pas tant que ça de citer, je trouve. c'est vraiment ne pas tenir compte de, je ne sais pas, plus de 10 ans. Enfin, je vais dire 10 ans, mais en fait, c'est beaucoup plus de pensée critique sur le numérique. Et on devrait lancer des trucs en pensant dès le départ aussi au risque. Plutôt que de...
Intégrer le risque dans la réflexion de départ, mais ça, c'est
ouais, pas... Oui, ce que les experts de cybersécurité appellent le future-proofing, réfléchir à... pour réfléchir à tous les usages possibles, quoi, et pas seulement au positif.
Ouais. C'est vrai. Non, mais
pour aller dans...
Pardon. Vas-y, Maxime.
Non, je voulais dire, pour aller dans ton sens, justement, c'est que... Pour moi, le mec, c'est très exactement ce qu'il fait, là.
Ouais.
Et ça se voit dans la manière dont il présente son service. C'est genre, ah non, mais moi, en fait, je l'ai fait que pour cet usage. J'ai absolument pas limité l'usage, mais je l'ai fait que pour cet usage. Faut pas déconner, nanana. Il rejette la faute aux utilisateurs et il sait très bien qu'en disant ça, la loi le protège. C'est là où il devrait y avoir... Enfin, c'est peut-être un débat un petit peu trop large par rapport à ce qu'on dit, mais... c'est là où il devrait y avoir une puissance de loi beaucoup plus rapide. Or, on est quand même, la technologie évolue 4 fois plus vite que nos représentants légaux et politiques. Donc, ça appelle à un espèce d'appel d'air où ils peuvent glisser tout et n'importe quoi, toujours protégés par une loi qui est aujourd'hui beaucoup trop lente par rapport à l'évolution technologique. Et on se retrouve avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où il était toujours plus simple d'harceler des gens pour rien, quoi.
Alors, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable. Et je dirais, c'est le genre de technologie qui se développe effectivement. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que la loi ne suit pas. C'est sûr que forcément, il faut attendre que les faits deviennent problématiques pour adapter la loi. Mais c'est mieux que le contraire. Tu vois, le fait d'adapter la loi, de créer la loi contre de futurs usages ou des usages potentiels, ça fait un petit peu, Future Crime Unit, on vous arrête avant que vous n'ayez fait le crime.
Oui, non, ça là-dessus, clairement. Ouais.
Mais, et je trouve qu'en Europe, justement, aux grandes dames de parfois le reste du monde et même parfois de l'Europe, on est plutôt pas mal sur ces usages et on est même assez... on serre la vis, quoi. Depuis quelques années, on commence à beaucoup serrer la vis. Et j'imagine que... Alors, tu as tout à fait raison. Hein. Les usages les usages acceptés de PMI, c'est censé être pour soi, donc faire une recherche sur soi et faire une recherche avec une autre personne dont on a eu l'accord. Alors évidemment, ça, on se doute bien que oui, mais non. Mais par contre, là où effectivement il y a quelque chose peut-être à faire, c'est ce dont parlait Mathilde, c'est qu'il y a 10 ans ou 15 ans, développer des outils informatiques sans penser aux différentes manières dont ils pourraient être utilisés, eh ben, ça serait, c'était, on pouvait le comprendre parce qu'on n'avait pas l'expérience. Aujourd'hui, je crois qu'il est assez inexcusable de ne pas envisager justement tous ces cas de figure. Et alors, peut-être dire ne carrément pas développer les choses ou les tuer dans l'œuf, ça serait un peu trop restrictif, mais au minimum, intégrer des garde-fous. En l'occurrence, il dit, bah, vous voulez, on a l'autorisation d'utiliser le service. Si on fait une recherche sur soi-même ou sur une personne dont on a l'autorisation, eh ben, mettre des vérifications de cette chose-là. Parce voilà. Que c'est effectivement...
Pour moi, c'est ça qui manque, en fait. C'est, c'est les garde-fous.
Ouais.
Après, en termes de, pour revenir sur la question de la loi, effectivement, en Europe, on est quand même assez avancé, quel que soit le sens qu'on mette derrière le fait d'être avancé. Mais là, il y a toute la AI Act qui est en cours de discussion au Parlement européen, le futur règlement sur l'intelligence artificielle. Et il y a tout un pan qui va concerner les problématiques relatives à la reconnaissance faciale. Donc, à la limite, peut-être que grâce à PimMind, on va pouvoir mieux sécuriser ce genre de d'usage, parce qu'on aura eu l'exemple sous les yeux. On pourra mieux légiférer dessus.
Et Clearview AI fait un peu la même chose, mais la grosse différence, c'est que PimMind est accessible aujourd'hui encore à n'importe qui. Donc, et ils trouvent d'autres choses encore que Clearview AI. On nous dit dans la chatroom, le droit à l'oubli, c'est discutable. Philosophiquement, c'est plus un droit au pardon qu'il faudrait. Alors, sur le principe, oui, philosophiquement, je suis plutôt d'accord. Encore que, mais si tu réussis à implémenter techniquement le droit au pardon, on pourra peut-être en reparler. C'est un peu compliqué quand même. Hein,
Essaye sur les réseaux sociaux, je te regarde.
Voilà, c'est ça. L'autre sujet que je voulais évoquer, c'est Honor Lock, qui est aussi un truc, encore un article du New York Times, qui est décidément, qui a fait un beau boulot ces derniers temps, qui est un système qui a été développé, alors ça fait un certain temps, mais il a surtout été utilisé ces deux dernières années avec les pandémies. C'est un outil qui est censé repérer quand des étudiants qui passent des examens de chez eux trichent. Alors, comment ça fonctionne ? C'est une extension qui s'installe sur votre navigateur, là où vous utilisez l'outil de l'université pour faire votre examen. Et il va vous demander d'activer votre caméra, de filmer dans de prendre votre appareil. A priori, c'est un portable. Hein, donc, vous pouvez le prendre et le tourner tout autour de la pièce pour vérifier qu'il n'y a rien dans la pièce. Et puis, il va filmer votre visage par la webcam et l'écran. Donc, ce que vous faites sur l'écran est repéré par des algorithmes, cela encore, s'il estime que vous trichez ou pas. Et quand il estime que vous trichez, il va mettre une alerte et avoir la vidéo disponible pour qu'un professeur ou quelqu'un puisse passer la chose en revue. Et en l'occurrence, ça pose pas mal de problèmes. On a l'exemple d'une étudiante en particulier qui a été flaguée et dont le prof a dit « bah oui, vous avez triché, donc vous avez zéro à cet examen ». Sauf que la manière dont l'outil détermine que vous avez triché ou non, c'est que il se dit « si vous regardez dans la pièce et que vous tapez après, eh ben, c'est que vous êtes possiblement, en train de regarder quelqu'un qui vous a envoyé les infos ou un truc, une anti-sèche ou un truc du genre. Et d'ailleurs, dans les instructions avant de vous lancer dans l'examen, ils vous disent, vous devez regarder l'écran pendant toute la durée de l'examen. Rendez-vous compte, hein ? Toute la durée de l'examen. Et évidemment, les personnes qui ont été... entre guillemets, attrapé, ou dont on a déterminé qu'elle trichait, il disait, je pense, avec justesse, mais enfin, on ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas juste regarder l'écran. Enfin, c'est compliqué de regarder l'écran non-stop pendant une heure et demie d'examen ou ce que c'est. Et du coup, ce que répondent les sociétés, il y en a plusieurs, hein, mais en l'occurrence, ils prennent l'exemple de Honor Lock, ils disent oui, mais on passe ensuite en revue la chose avec des humains. Ce n'était pas tout à fait le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais deux problèmes. D'une part, ils font appel à des personnes qui ne coûtent pas très cher dans des pays étrangers, qui sont, selon eux, rigoureusement formés, mais enfin... Je trouve que pour des choses comme des examens d'université, on ne peut jamais être sûr. Et d'autre part, ils disent, et les professeurs ont accès aux données, donc peuvent les regarder eux-mêmes. Mais le problème que ça pose, c'est que une fois que le billet, cette personne a été flaguée comme tricheur est installé dans l'esprit des gens, et ben ensuite, on va aller justifier la chose en regardant, en disant, bon, ben, il regarde de l'autre côté et puis il tape. Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il a une anti-sèche sur le mur? On ne sait pas, mais comme on nous a dit, le programme nous a dit que la personne avait triché, eh ben, on va partir du principe, on a l'a priori le biais de la triche. Et donc, c'est évidemment très problématique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des millions de personnes qui ont été accusées à tort, mais c'est quand même un petit peu préoccupant, cette histoire, avec, encore une fois, là aussi, des algorithmes qui vont déterminer ou donner un avis sur une activité qu'il est difficile à déterminer avec, avec un algorithme. Je disais Recognition pour PMI, je me demande maintenant si c'est vraiment Recognition qu'ils utilisent, parce que HonorLock, eux, utilisent Recognition. Donc peut-être que, enfin, bon, en même temps, il n'y en a pas des millions de services de reconnaissance faciale. Il n'est pas impossible qu'ils soient dans les deux. Mais donc, ces questions d'algorithme, du coup, comme c'est un petit peu ton domaine, Mathilde, c'est un problème, ce genre d'outil, ou c'est nécessaire, ou où on en est dans ces problèmes-là?
Moi, cet exemple spécifique est l'illustration parfaite de ce bon vieux capitalisme de surveillance, comme l'a appelé Shoshana Zuboff. Je ne suis pas sûre qu'on avait besoin de mettre en place des outils comme ça. C'est plus la démonstration de l'absence de confiance dans les élèves qu'autre chose. Après, je ne suis pas hyper surprise qu'il y ait ce genre d'erreur, parce que, en fait, dans énormément d'outils sont basés sur des technos algorithmiques et qui servent à surveiller toutes sortes de choses. Il y a déjà eu des erreurs de ce type. Et en fait, ce que ça montre, c'est juste que utiliser des algorithmes, ça fait un espèce d'assèchement de la réalité. On a voulu mettre en ligne de code ce que ça voulait dire que tricher un examen, mais moi, effectivement, à l'époque où je passais des examens, il n'y avait pas ce genre d'outil et je regardais tout le temps par la fenêtre, et ben, j'aurais été flaguée, mais 12 fois par des logiciels si j'avais été étudiante aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est un peu délirant d'avoir encodé le truc comme ça, je trouve. Mais en fait, ça m'évoque d'autres outils qui soit servent à surveiller des livreurs et théoriquement à les aider à respecter le code de la route, et en fait le résultat est détourné pour les sanctionner. Ça, c'était chez Amazon, je crois. Soit des choses comme la CAF, enfin la CAF, je sais que c'est le cas à la CAF en France, mais en fait ça existe dans plein de programmes d'aide sociale, où le premier jugement sur est-ce que tu as le droit ou pas à ton aide ce mois-ci est fait par algorithme, et quand il y a une erreur, bah, l'algorithme il s'en fout, c'est une machine. Mais la personne qui le vit, elle peut se retrouver vraiment dans la mouise, quoi, si elle n'a pas d'argent dont elle avait besoin ce mois-ci, ou quel que soit le type d'aide que c'était. Et en fait, c'est ce truc de l'algorithme, il est froid et il s'en fiche de se tromper. Par contre, les personnes qui vivent qui sont face à la machine se retrouvent en situation beaucoup plus complexe.
Ouais. Forcément. On nous demande dans la chatroom, mais il n'y a pas de vérification une fois que l'algo te dit que la personne a triché. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une vérification. Mais d'une part, il est difficile de déterminer, bah, effectivement, la personne regarde un peu par la fenêtre, regarde dans l'air, réfléchit. Est-ce qu'elle a un anti-sèche de l'autre côté? Bah, peut-être, peut-être pas. Et puis d'autre part, il y a cette question du biais qui est induit par le jugement de l'algorithme. C'est qu'une fois que l'algorithme a dit bah, la personne a triché, alors, je ne vais pas dire on est 100% convaincu qu'elle a triché, mais on est peut-être plus prompt à penser, bah oui, elle a triché, on a ce biais cognitif qui est intégré dans notre réflexion, donc ça peut poser un problème. Là encore, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Maxime, toi que j'ai connu étudiant, jeune et enthousiaste, soyons honnêtes un instant, je comprends la préoccupation des universités ou des gens qui font passer des examens. En particulier, tu disais, Mathilde, tout à l'heure, oui, moi, je passais des examens, on m'aurait flagué 12 000 fois, mais généralement, on passait les examens dans une salle de cours ou dans un amphi ou ce que c'est. Ouais. Et il y avait quand même les gens qui regardaient. Bon, bah, si tu regardais en l'air, on savait qu'il n'y avait pas un grand paravent étendu au plafond avec toutes les réponses. Là, tout le monde passe ses examens à la maison. J'ai beau avoir la plus grande foi en l'humanité qui soit, soyons honnêtes, il y a quand même au moins une partie des gens qui, s'il n'y a aucune forme de surveillance ou de vérification, vont se sortir le bouquin de cours et regarder les réponses pendant qu'ils font leur examen, non ? Ça me paraît ça me paraîtrait quand même surprenant que ça ne soit pas une préoccupation. Est-ce que, du coup, Maxime, tu comprends la démarche des universités?
Je comprends la démarche. Moi, le seul truc qui me pose souci, c'est la confiance aveugle dans la technologie. C'est justement le manque d'oversight, en fait. Ça a toujours été un des gros problèmes. Ça se souligne encore plus par l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est cette idée que on met humainement dans le mot intelligence l'idée d'une intelligence humaine que n'a pas du tout la technologie. Donc, on n'arrête pas de le répéter, mais quelqu'un qui regarde en l'air, à chaque fois que je cherche un mot, je regarde en l'air. Le truc me flague immédiatement, ça n'a aucun sens. Et aussi, il y a un petit truc, parce que j'ai envie de faire un big up un petit peu spécial, c'est qu'il y a aussi un peu d'intelligence dans la triche, quelque part, tu vois. Il y a cette idée d'être limité à un système, de trouver la feinte, tu vois, même si c'est pas l'intelligence scolaire voulue, tu vois. Il y a pour certaines personnes, et je t'avoue que j'en fais partie, l'idée d'arriver à tromper un système aussi. Donc, quoi qu'il arrive sur ces systèmes-là, il y aura toujours des gens motivés à trouver la faille. Je pense que Cassim le dit très bien, est-ce qu'il y a un vrai besoin? Est-ce que le nombre de tricheurs de la sorte dans ce genre d'examen est vraiment si important qu'il faille trouver des moyens de resserrer ça? Moi, je pense pas. J'ai juste l'impression qu'on a ajouté un système algorithmique, un truc qui n'en avait pas besoin, en fait, qui est typiquement humain, quoi.
Vas-y, Mathilde.
Il y a Thierry Luch qui dit aussi un truc intéressant. À la limite, on est dans un nouveau monde par rapport à l'époque où moi, je passais des examens. Changeons le type d'examen. Il y a des examens qui existent avec documents autorisés, etc. Et peut-être qu'il faudrait aussi penser à d'autres manières de tester les étudiants en prenant en compte l'univers dans lequel ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de choses à distance, beaucoup de choses numériques. Ça a certainement modifié les cours, donc pourquoi pas la manière de les tester.
C'est un petit peu la conclusion à laquelle j'arrivais, en fait, et je crois, j'ai l'impression que c'est la bonne réponse. Il y a d'ailleurs, on parle du monde d'aujourd'hui, et c'est tout à fait vrai, la plupart des gens font de plus en plus de cours à distance et d'examens à distance. Mais ça existait aussi avant, et il y a plein de types d'examens qui sont avec documents autorisés. J'imagine qu'en l'occurrence, c'est des examens qu'ils avaient pris en format des QCM ou ce genre de choses qu'on fait dans les salles de cours de l'université, et qu'ils les ont transposés, peut-être par urgence ou ce que c'est, à distance, mais ce n'est pas du tout adapté. Peut-être qu'il faudrait aller s'inspirer de ce que font les cursus à distance qui ont, comme vous le dites tous, des examens où les documents sont autorisés. Et c'est ce genre de choses qu'il faudrait faire. Bon, ça demande peut-être, je ne veux pas taper sur la tête des universités, je suis sûr qu'elles ont beaucoup de problèmes, surtout depuis 2 ans, mais c'est peut-être ce genre d'évolution auquel il faudrait réfléchir. Je crois qu'on est... On est sur le même.
J'aimerais rajouter un truc, je suis complètement d'accord, mais il y a aussi cette idée que si on s'adapte petit à petit au fait que les gens font leurs études à distance ou des trucs comme ça, il peut y avoir aussi des solutions locales. C'est-à-dire que tu te développes dans chaque région un centre d'examen où là tu auras ton contrôle habituel ou des trucs comme ça, plutôt que de vouloir toujours tout généraliser, tout globaliser. Tu peux aussi faire des exceptions, enfin pas des exceptions, mais des actes locaux. On va prendre la salle des fêtes du village pour les 3-4 étudiants qu'on a pour qu'ils passent leurs examens pendant une après-midi, et voilà où, en fait.
Ouais, enfin le problème auquel on est confronté, c'est le problème justement des confinements et ce genre de choses où on ne peut pas faire des choses en tu vois, se réunir. Mais
oui, là je parlais au-delà encore de
oui,
ça, tu vois.
Si on voit plus loin, oui, effectivement. C'est quand même, enfin, imagine une université, je sais pas moi, on va prendre la question de. On va prendre l'exemple français, mais une université à Toulouse qui fait passer des examens partout en France et qui va devoir organiser dans chaque ville de France un lieu pour, pour réunir les étudiants qui sont dans ce lieu-là, c'est quand même encore plus compliqué que de se dire « bon, on va faire des examens qu'on peut faire avec documents plutôt ». C'est une solution plus simple à mettre en place, je crois.
Oui, c'est clair. Mais après, au niveau de l'humain, je préfère. J'aime le local, moi.
Mais
tu
oui,
vois.
Mais oui, mais enfin, Maxime, c'est pas, tu vois, des ordinateurs, des écrans, c'est bien aussi.
Pas la surveillance par défaut.
Pardon, Mathilde.
J'ai dit oui, mais pas la surveillance par défaut.
Oui, c'est ça.
L'intrusion, quoi.
Ouais. C'est ça au final que dénonce, qu'on peut dénoncer, c'est se dire. Quelle est la solution, bah, on va induire une surveillance avec une intelligence artificielle plutôt que de réfléchir à autre chose. Donc, bon,
enfin, bah, quelle est la solution ? On met des flics dans les écoles, c'est juste que c'est des abos, quoi.
C'est des... Oui, oui. Bah, écoutez,
ça
merci.
Ça aussi sont biaisés face au résultat des intelligences artificielles.
Voilà.
bon, on va parler d'autres sujets, mais avant ça, j'aimerais tout de même remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous savez, patreon.com/rdvtech. Bah, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de financer cette émission. Ça me permet d'acheter des pâtes, des couches pour mes enfants, enfin pour ma fille, ce genre de choses. Et c'est grâce à vous, grâce aux auditeurs. Si vous nous écoutez depuis un moment et que vous appréciez l'émission, eh bah, peut-être que vous diriez « Patrick, il est sympa, je lui paierai bien, tiens, un Mars. Bah, » pourquoi pas ? Un petit Mars par semaine, ça ne va pas aider à ma comment dire, mon oisiveté coupable. Non, peut-être pas oisiveté, je bosse un peu. Mais vous comprenez, j'ai tendance à prendre du poids en ce moment, je mange un peu trop. Grâce à vos Mars, ça pourrait empirer la situation. Mais vous pourriez aussi dire, je paye une salade à Patrick. C'est possible également, ou un concombre. Tiens, un concombre, ça marche très très bien, c'est hyper bon. Et ça pourrait être votre contribution au rendez-vous tech sur patreon.com/rdvtech. Vous allez regarder le niveau de soutien qui vous intéresse et vous envoyer un message une fois que vous êtes devenu patriote en disant « Patrick, c'est pour un concombre » ou « Patrick, c'est pour des carottes ». Vous voyez, vous pouvez me motiver, m'aider. Alors, je ne dis pas que je vais installer une caméra de surveillance avec une intelligence artificielle pour vous prévenir à chaque fois que je vais ouvrir une tablette de chocolat. Mais au moins, je serai motivé par votre bienveillance. Donc...
C'est la meilleure pub de Patreon que j'ai jamais entendue de ma vie.
Tu sais, ça fait quelques années que je le fais, donc c'est la nouveauté, les gens aiment la nouveauté, et moi je peux pas sortir un nouvel album tous les deux ans, je fais toujours le même podcast, donc c'est dans la pub Patreon que j'essaye de faire un petit peu d'originalité. Voter concombre, c'est mon moyen de vous motiver à devenir patriote sur patreon.com/rdvtech. Vous arrivez chez vous, ça fait cling, et vous dites Patrick quand vous mettez les clés dans le bol, là vous dites Patrick concombre. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission et je m'excuse auprès de tous ceux qui entendent cette promo. C'était pas du tout réfléchi à l'avance et ça s'entend.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a encore des sujets à traiter et c'est le reste de l'actu avec notamment un très bel article de... Alors un article, une newsletter de Lucie Ronfaux. Vous savez, elle a sa newsletter qui s'appelle Règle 30, qu'elle édite sur Numérama toutes les semaines. Et il y a eu... En fait, la première partie est une sorte d'édito que j'ai beaucoup apprécié cette semaine où elle parle... des trolls, plus que les trolls même, des opinions inacceptables qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et des tendances qu'on a, des tendances presque impossibles à réprimer, à y répondre. Et en y répondant, on crée une sorte de d'écho pour ces opinions. Et donc, l'effet... C'est que là où nous, on a l'impression d'avoir... Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans sa newsletter. Elle dit « Regardez-moi, je suis en colère ». Ça symbolise tellement bien ce sentiment qu'on a dans les réseaux sociaux quand on a une frustration énorme par rapport à un contenu, quelqu'un qui dit quelque chose d'inacceptable, on se soulage en fait en commentant, en retweetant, en désapprouvant publiquement la chose. Et ce dont on ne se rend pas forcément compte, même si on le sait quelque part, c'est que on contribue à diffuser, vraiment à diffuser cette information, parce que les algorithmes, encore eux, c'est un petit peu la malédiction des algorithmes, cet épisode, et les algorithmes, ils voient un signal actif, et donc ils vont diffuser la chose encore plus. Et vraiment, il y a cette idée qui, je pense, qui traîne dans l'arrière de notre esprit depuis maintenant un moment, qu'on comprend cette idée qu'il ne faut pas alimenter les trolls, mais ça va plus loin que ça, comme elle le dit. Ce n'est pas juste qu'il ne faut pas nourrir les trolls, c'est qu'il faut se retenir de répondre aux gens qui disent des choses inacceptables, parce que ça les aide, en fait. Je suis curieux, du coup, Mathilde, encore une fois, c'est sur toi que ça tombe avec les algorithmes. Il y a vraiment cette idée qu'on est en train d'apprendre que même quand on a envie de répondre à quelqu'un qui dit quelque chose d'inacceptable, en fait, on joue son jeu, non ?
Ah ouais, moi j'ai un super exemple là-dessus, c'est le physicien Étienne Klein. Mmh. Attends, je ne sais pas si tu m'entends. Là.
Oui, si, on t'entend, pas de souci.
Pardon, désolé. Le physicien Étienne Klein, qui un jour, s'énervant contre un petit tweeto qui devait avoir 200 followers, lui, il en a, on va dire 20 000, quelque chose comme ça, il faudrait regarder. Le retweet en mettant un commentaire, c'est vraiment malin de encore me poursuivre avec ça. Et le avec ça, en fait, c'était un lien d'une enquête du Monde sortie il y a 5 ans, dans laquelle on apprenait que Étienne Klein avait été accusé de plagiat sur je ne sais plus quel texte, chose que je ne savais pas du tout, mais que du coup j'ai appris parce qu'il s'est senti obligé de dire publiquement qu'il était très vénère contre ce hater. Et donc, en fait, ouais, c'est vraiment un phénomène qui a du mal à être compris, je crois.
Là, l'exemple que tu donnes, c'est celui du Streisand Effect, où quand on dit en l'occurrence, c'était procès pour le Streisand Effect, mais là, c'est encore plus large, quoi. C'est vraiment, quelqu'un dit quelque chose d'inacceptable, et on va dire, ça, c'est inacceptable.
Ça fait du bruit, oui, c'est... Oui, en gros, le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des likes, des RT ou juste des réponses, on considère qu'il y a de l'engagement et donc le réseau va le pousser plus fort. Et sauf que le réseau ne va pas regarder quel type d'engagement c'est, sauf chez Facebook où on sait qu'ils aiment particulièrement la colère. et donc, du coup, si tout le monde s'énerve sur un tweet, ce tweet va avoir une audience de dingue qu'il n'aurait pas eu si on s'était retenu de s'énerver.
C'est ça, oui. Et du coup, on est vraiment dans une situation qui est, qui n'a pas de solution, parce qu'on voit un contenu qui nous énerve, qui est inacceptable, soit on l'ignore et de ce fait, on est un petit peu en train pas de le valider, mais enfin, on a l'impression de rien avoir fait pour combattre la chose, soit on essaye de répondre et de le, entre guillemets, combattre, et du coup, on le diffuse.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Quand même. Ouais. Enfin, il y a plusieurs pistes de solutions. Après, ça dépend aussi du type d'énervement. Il y a typiquement dans les milieux militants, la sphère, j'aime pas ce mot, mais bon, je vais le prendre pour qu'on voit de quoi on parle. Chez les wokistes, on aime bien se taver les uns sur les autres parce que y en a qui considèrent que les autres sont pas assez radicaux ou qui sont pas assez attentifs à certains publics, etc. Et ben là, il y a des chercheuses qui proposent de faire du call-in plutôt que du call-out, c'est-à-dire plutôt que afficher publiquement quelqu'un dont on considère qu'il a dit quelque chose de faux, de mal, d'agressif, aller le voir en privé, donc sur les réseaux sociaux, ce serait plutôt en DM, pour lui expliquer pourquoi ça allait pas et en gros créer l'espace d'une discussion calme, apaisée, d'un débat pour que chacun puisse avancer. Donc déjà, ça fait un truc qui permet d'éviter de montrer le sujet de l'énervement, de le pousser et en plus potentiellement de faire dériver le truc en harcèlement. Pour qu'il y ait des trucs spécifiquement outrageants, très troll, comme écrit Lucie, là je peux tellement de solutions, mais après, ça fait depuis le début d'Internet qu'on dit « don't feed the troll », donc peut-être qu'il faut en revenir à cette règle de base.
Mais ce qui est frustrant, c'est que on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, tu sais. Et parfois, on dit le troll, mais le troll, c'est quelqu'un qui intentionnellement dit quelque chose d'outrancier. ou de tu vois, qui en jouent presque. Parfois, il y a des gens contre lesquels on est, enfin, qui expriment des opinions qui sont, comment dire, politiquement, moralement, éthiquement, auxquelles on s'oppose. Et on a envie de dire, non, mais ça, c'est comment dire, c'est pas c'est faux, mais c'est wrong.
Oui, potentiellement, c'est faux. Sur YouTube, la théorie de la Terre plate, c'est faux.
Oui, par exemple. Mais par exemple, si quelqu'un, bon, on va prendre un exemple encore une fois outrancier, si quelqu'un va dire, je sais pas moi, les Juifs contrôlent la finance et ils contrôlent le monde et les Illuminati et machin. T'as envie de répondre et de dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est normal d'avoir l'envie, tu vois, de dénoncer quelque chose qu'on estime faux ou injuste.
Bah moi, je signale maintenant.
Toi, tu signales, donc, d'accord, c'est ça.
Je préfère passer au signalement. Mmh. Et donc, c'est là qu'on pourra parler après de quelle est la responsabilité des plateformes, comment ils modèrent, etc. Mais quand je vois un truc ouvertement raciste, sexiste ou vraiment agressif et que je trouve que ça va pas, et ben, ouais, je signale réflexe, plutôt, que de, plutôt que de
plutôt dire que de diffuser, ça quoi. Va pas. Mmh. D'accord. Bah, peut-être que c'est le signalement, là. La solution.
Mais après, tu vois, c'est pour ça qu'il y a plusieurs pistes. Il y a la piste du signalement, il y a la piste d'aller discuter avec la personne en privé, il y a la piste mieux connaître le fonctionnement des algorithmes de réseaux sociaux, juste parce que ça permet aussi de se, enfin, à mon sens, de se détacher justement de l'énervement. Sur Facebook, dans les révélations de Francis Haugen, il y avait ce truc vraiment. On a appris qu'ils avaient fait, ils avaient encodé le fait que l'émoji colère était mieux que les autres. Et donc, à chaque fois que quelqu'un mettait un émoji colère sous un post, le post allait être montré à plus de gens. Mmh. Et on sait ça, on peut détourner aussi l'algorithme et donc utiliser, par exemple, un autre émoji, parce qu'on voudrait ou juste répondre sans utiliser cet émoji-là. Enfin, il y a plein de trucs à inventer dès qu'on connaît un peu mieux le fonctionnement de ces algos, quoi.
Je suggère d'attendre la sortie de ton livre et d'aller le lire pour mieux comprendre. D'ailleurs, sur le sujet des réseaux sociaux, là encore, c'est encore le New York Times, et décidément, cette semaine, c'est la fête au New York Times. Est-ce que vous connaissez le terme DYOR, Do Your Own Research ? Vous savez ce que c'est ?
Ouais.
Oui, Maxime ? Est-ce que tu fais ta propre recherche, toi, sur les sujets polémiques ?
Mais en fait, enfin, je suis journaliste, donc on n'a pas le choix.
D'accord, ok. En fait. Oui, ah non, mais toi, t'es un, comment on dit, fournaliste, journaleux, ouais. Journafo.
Ça se finit en hop souvent, mais oui.
Le terme en question est un terme, en fait, qui est Do Your Research, qui est devenu une sorte de cri de ralliement dans différents milieux, soit un petit peu complotistes, soit anti-système, tu vois, ce genre de choses. On l'utilise en théorie, c'est marrant, parce que, comme tu le dis, Do Your Own Research, faites vos propres recherches, bah, c'est censé être quelque chose de bien, de positif. Sauf que ça a été utilisé pour dire, chez les anti-vax, par exemple, bah, on ne fait pas confiance au consensus scientifique. Do your own research. Non, fais confiance à personne. Toi, va chercher toi-même et tu comprendras la vérité. Chez les crypto-monnaies, on a cette idée que bah, do your own research, et ça dédouane un petit peu les gens parce que, attends, t'aurais dû faire ta recherche toi-même. Tu devrais investir de l'argent que tu peux perdre ou tu dois pas investir dans des trucs qui sont clairement pas crédibles, pas fiables. Et donc, c'est ta faute un petit peu. Do your own research, c'est ta faute si t'as perdu de l'argent. C'est une sorte de détournement d'une idée qui est a priori positive, do your own research, en cri de ralliement anti-système un petit peu pervers, quoi. Donc, bon, je le mentionne comme ça, vous saurez ce qu'est DYOR, do your own research.
C'est finalement lié avec ce dont on parlait juste avant, hein. Il y a le biais des réseaux sociaux qui transforme un petit peu tout là-dessus, et même les expressions qui étaient censées être positives et censées être une démarche de recherche, de savoir, d'intelligence, est repris maintenant, j'ai un peu envie de dire par des idiots, mais parce que j'arrive pas à trouver un moyen de le dire gentiment. Mais
ouais, voilà, idiot, quoi. C'est compliqué, mais, ouais, on est toujours l'idiot d'un autre, mais...
Bien sûr.
Ouais, le problème, c'est aussi que ça recoupe des comportements quasi complotistes, du coup, parce que... Bah, typiquement, si on met en doute, je sais pas moi, le fait que la Terre est ronde et que quelqu'un nous dit « do your own research », tu vas sur YouTube, il y a 10 fois plus de contenus qui vont te renforcer dans l'idée que la Terre est plate que dans l'idée que la Terre est ronde. Ouais. Donc, c'est compliqué.
Mais c'est un moyen en fait très simple de rejeter une idée qui est établie. On va dire, non, attends, toi, tu crois les gens, ce qu'on te sert déjà tout cuit, tu crois que la Terre est ronde, do your own research, tu verras bien. Effectivement, tu peux trouver un truc qui contredit ça très facilement en faisant your own research. Donc, bref.
Voilà, c'est bizarrement individualiste aussi.
C'est, pardon ?
Enfin, c'est bizarrement individualiste. C'est vraiment le seul moyen de s'en sortir, ce serait de chercher tout seul. Mais du coup...
Ah bah, c'est très pratique. C'est très pratique quand tu veux croire ce que tu veux croire sans aucune référence à la réalité. Tu vois, tu dis, bah, do your own research. OK, tu vas chercher toi-même. Et là, mais c'est... Je ne sais pas si c'est... Oui, individualiste parce que your own research soi-même... Mais c'est surtout un moyen de contourner les questions qui ont déjà été réglées. Parce que tu peux simplement aller voir ailleurs. Quand quelque chose ne te plaît pas, tu dis « do your own research » et bah, tu vas trouver une réponse qui te plaît par toi-même. Même si elle est minoritaire, même si elle est ridiculisée, machin, bah, toi, ça va te plaire parce que tu as fait ta propre recherche. Bon.
J'appelle ça le fake news avec une monocle, avec un monocle.
C'est le fake news fier, genre « ah, moi, je sais ».
C'est ça.
Nous sachons. Un sujet que je voulais évoquer aussi, et du coup, bah, tu m'en donnes l'occasion, Mathilde, c'est les questions qui lient la tech au droit à l'avortement, qui est, bah, dont on entend parler dans l'actu depuis un moment, en particulier aux États-Unis, où il est remis en question, et plus que remis en question dans certains États. Et on a parfois tendance à se dire « oui, mais les données privées, c'est nébuleux la manière dont elles pourraient être utilisées pour me nuire. Moi, ça ne me dérange pas de donner mes données, ça me donne accès à des services, des trucs comme ça. » Et c'est vrai qu'on a parfois un petit peu de mal à contextualiser ou à expliquer pourquoi ça pourrait être utilisé, entre guillemets, contre nous. Et en l'occurrence, tu as écrit un article sur 20 minutes qui fait le lien justement entre certaines apps et certains services et les risques que ça peut faire courir sur les questions de droit à l'avortement. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, Mathilde ?
Oui, avec plaisir. Je suis partie du coup d'un type d'application spécifique qui sont les applications de suivi menstruel. C'était le truc que Apple avait oublié de mettre dans son Health Kit quand il l'a sorti pour la première fois en 2014. Ça, c'était pour la vanne gratuite.
En plus, ça a mis un moment, ça a mis genre 4 ans à arriver. Enfin,
bon, ouais, enfin, ça, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, il leur manque quand même un peu de femmes dans leur team qui valide les produits. Bon, bref. En tout cas, depuis, il y a eu plein d'applications qui sont sorties. Et c'est juste un truc de suivi. C'est assez pratique, quel que soit l'usage que veut en faire la femme, qu'elle veuille une grossesse, qu'elle en veuille pas, juste pour savoir où elle en est, bon, etc. Le problème, c'est que ça veut dire qu'on... Enfin, en fait, c'est une application de santé comme une autre. Donc, on met des données dedans qui potentiellement... qui sont sensibles, ça, c'est sûr, et qui peuvent potentiellement être retournées contre elles. Et donc, dans un cas de fragilité du droit de l'avortement, ou même sans ça, parce qu'en fait, mon but, c'était de montrer que ça pouvait aussi être un problème en Europe. Ça pouvait aussi être un problème en France, mais simplement c'était plus pour des raisons publicitaires ou alors dans le cadre de violences conjugales, parce que les violences conjugales ont elles aussi pris leur tourne en numérique, yay. Si jamais vous êtes avec quelqu'un qui veut que vous ayez un enfant et que vous n'avez pas envie et que cette personne a accès à votre application de suivi menstruel, et ben vous aurez beaucoup de mal à lui cacher ce que vous faites de votre corps, enfin ce qui se passe avec votre corps. Et aux États-Unis, si l'arrêt Roe versus Wade est renversé comme on le craint, et que du coup, d'un coup, je crois que ce sera 12 États interdiront quasiment d'office l'avortement, ce serait même l'État qui pourrait faire pression sur les femmes qui utilisent ce genre d'application en disant, bah, on récupère les données de votre téléphone portable par l'intermédiaire de la police, par exemple. Et en faisant ça, elle pourrait voir quand il y a eu une suspension anormale ou suspecte des règles et donc dire, bah, là, vous ne les avez pas eues pendant 2 mois et brusquement, vous les avez de nouveau. Ça veut dire que vous avez avorté et ça pourrait mener à toutes sortes de choses qu'on craint et qu'on espère qu'elles ne seront pas trop fréquentes, enfin même qu'elles n'arriveront pas. Mais le problème, en fait, c'est que c'est déjà arrivé que des données numériques soit utilisé aux dépens de femmes. C'est déjà arrivé dans un État américain qui m'échappe à l'instant. C'était pas les données de ce type d'application, mais c'était des données d'historique Internet, je crois. Mmh. En fait, en gros, c'est juste pour montrer que rien que ça, rien qu'un historique numérique, ça peut permettre de mettre le droit à l'avortement en danger, parce que si on voit que vous avez cherché comment provoquer...
Oui, faire une recherche, touches, simplement, oui.
Ouais, c'est ça, dans un état qui refuse l'avortement, et ben, ça peut être tourné contre vous. Et après, le dernier cas, c'est les groupes anti-IVG qui, eux, peuvent utiliser la force publicitaire qu'on connaît aux outils numériques. Par exemple, c'est très simple.
Parle plus dans ton micro, s'il te plaît, Mathilde.
Ouais, pardon, j'ai bougé.
Ouais.
C'est très simple aujourd'hui d'acheter à des data brokers des données de géolocalisation. C'est la pratique du geofencing. Et donc, en gros, d'aller cibler des gens qui se rendent, par exemple, dans un centre du planning familial, dont on se doute qu'ils auront des questions relatives à la santé reproductive, et de les bastonner de publicité anti-avortement. Et ça aussi, c'est une manière de mettre des bâtons dans les roues, de créer du doute, de pousser de fausses informations ou de mauvaises informations sur les questions d'avortement aux femmes qui pourraient se poser des questions sur le sujet, etc.
Voilà. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on prend le cas des États-Unis parce qu'il était dans l'actu et ça me donne l'occasion d'en parler, mais toutes les problématiques que tu évoques effectivement sont réelles. Et aux États-Unis, les lois qui sont en discussion ou même en cours d'application vont très très loin. C'est-à-dire que c'est pas juste l'interdiction de l'avortement, c'est l'interdiction d'aide à une personne ou même de donner des informations à une personne qui voudrait se faire avorter, avoir une IVG. Et dans ce cadre-là, pour parler spécifiquement de tech, ces applications pourraient être tenues responsables de ce genre de choses. Et les autorités pourraient aller exiger, par exemple, d'obtenir les données en question pour savoir... Enfin, quand on en parle... J'imagine qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais enfin, si c'est la loi, c'est la loi. » Et comment dire ? Je ne sais pas si vous avez vu The Handmaid's Tale, mais c'était la loi aussi. La loi, tu peux dire n'importe quoi. Mais ce genre de situation pousse à comprendre l'importance de la vie privée. Et en l'occurrence, certaines applications protègent plus ou moins bien votre vie privée. Il y a des applications de suivi menstruel qui... garde vos données sur votre téléphone plutôt que de les envoyer sur leur serveur. C'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention, je pense.
Ouais, et puis c'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie sur la question de vie privée parce que, par exemple, faut savoir que si on vit aux États-Unis et qu'on installe une application comme ça, ça peut être intéressant de réfléchir à quels pourraient être les mauvais usages qui en seraient faits ou la manière dont ça peut se retourner contre nous. Bon, j'aime pas trop faire peser la responsabilité sur l'utilisateur, mais en tout cas, ça fait partie de ces cas où même nous, au stade de l'utilisateur, on peut se poser des questions et aller chercher un outil un peu plus sécurisé qu'un autre pour des raisons de pure protection de la vie privée, quoi.
Ah oui, je crois qu'il y a une réalité qui est à ce stade indéniable, et même si on veut essayer d'améliorer la régulation sur ces sujets et ce genre de choses, il y a aussi le fait que différents types d'utilisation des données peuvent avoir différentes conséquences, et c'est compliqué de dire à tout le monde « il faut que vous sachiez comment fonctionnent les algorithmes et comment fonctionnent ». C'est vrai que c'est compliqué, mais... C'est aussi une solution qui est parfois inévitable, quoi. Ou alors tout le monde écoute le rendez-vous tech et puis c'est réglé. Je milite pour ça.
Non, mais du coup, ce qui est cool aussi, à mon sens, c'est que ça fait aussi venir, ça permet aussi de faire croiser les questions de vulgarisation du monde numérique avec d'autres mouvements. Donc, typiquement, si on parle spécifiquement du problème d'avortement aux États-Unis, je suppose et j'espère, parce que ça va forcément créer des idées intéressantes, etc., que les mouvements féministes et pour les droits des femmes, et en fait pour l'égalité en général, vont se croiser d'autant plus avec les mouvements qui militent pour un numérique ouvert à tous, accessible à tous et non surveillant. Et ça ne peut que... Dans mon petit côté optimiste, je me dis que ça c'est relativement positif.
Oui. Ça peut avoir des conséquences positives, quoi.
même si ce serait mieux que Joe versus non c'est quoi c'est Roe versus Wade reste en place pour
oui non mais ça enfin j'ose même pas enfin bon bref bon
si bon, je pourrais juste rajouter oui, bien sûr, un Maxime. Petit truc
vas-y
c'est que en fait tu vois tu parlais du fait de ne pas vouloir mettre la responsabilité sur l'utilisateur mais je pense au contraire que ton article participe à l'éveil de l'utilisateur sur les conséquences que peuvent avoir la big data et que c'est important justement de le relier à un truc extrêmement concret. Je pense qu'il n'y a rien de plus concret que l'avortement, la menstruation, ce genre de choses. Donc c'est je trouve que c'est un article très important que de toute évidence tu l'as très très bien écrit. Donc lisez.
Ouais. Voilà, je crois que je suis d'accord, c'est important de le lier aux préoccupations quotidiennes des gens. Parce que, effectivement, le problème, c'est que c'est très abstrait. C'est genre, je fais des recherches sur Google et que, moi, je trouve mon truc. Quelles conséquences négatives est-ce que ça peut avoir ? Et je crois aussi, alors, je ne vais pas parler pour Mathilde, mais je crois aussi que ça ne veut pas dire qu'on devient anti-tech caricatural, mais comprendre les usages et les conséquences de ces usages pour mieux les encadrer, mieux les réguler et mieux mieux les comprendre, tout simplement. Et parfois, quand c'est nécessaire, peut-être, oui, recadrer de manière stricte, quoi. Bref, bon. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler de ce genre de choses. Hey, pour se mettre un peu de bonne humeur, est-ce qu'on parlerait pas un peu crypto-monnaie et stablecoin ? Non ? Non, je ne vais pas casser l'ambiance. Alors, deux choses, vraiment. Vous vous souvenez qu'on parlait du stablecoin Luna, Terra, cet écosystème blockchain, token Luna, stablecoin Terra, qui s'est effondré, qui a quitté son statut de stable, qui n'était plus accroché au dollar et qui s'est effondré à quelques centièmes de millièmes de dollars, son fondateur, Do Kwon, qui est un type un petit peu sulfureux, un petit peu controversé dans le milieu, a relancé une nouvelle version de son système, Luna Terra, qui était censé beaucoup mieux fonctionner, et les tokens, qui ne sont pas la monnaie, mais les tokens, ont perdu 70% de leur valeur en 12 heures après le lancement. Et c'était marrant, c'est un petit peu dramatique, mais il y a des gens qui disaient « Oui, vas-y, Luna Génération 2, ça va être trop top, les lunatiques en force, machin. » Donc, eux, ils ont perdu 70% de l'argent qu'ils avaient mis dedans en 12 heures. Alors, peut-être que ça remontera, on ne sait jamais. Peut-être que Moïse va ouvrir la mer et faire remonter Luna. Mais il y en avait d'autres qui étaient accrochés à Luna Classics, qui est l'ancien, et qui disaient « Ouais, ça va remonter, ça va être super bien. » Au moment où l'article que j'ai lu de Decrypt a été écrit, ils avaient perdu 30% de plus dans les dernières 24 heures pour s'établir, là je parle du Luna Classique, pour s'établir à 0,00009031$. Il y avait 4 zéros après la virgule. Hein. Donc non, le Luna Classique n'est pas vraiment en train de remonter non plus. Mais le sujet que je voulais évoquer pour les NFT, c'est marrant parce que la semaine dernière, on parlait d'usage intéressant de crypto-monnaie. Il fallait bien qu'on compense cette semaine avec quelque chose d'un petit peu plus concret. Vous connaissez Seth Green, l'acteur ? Eh bien, il avait acheté un NFT d'un Bored Ape, vous savez, les fameux Bored Ape Yacht Club. Et il était en train de développer un dessin animé, une série animée basée sur ce NFT. Son NFT s'appelait comment ? Fred Simian. C'était l'un des Bored Ape. Sauf que il s'est fait scammer, il s'est fait ficher et il s'est fait voler son NFT. Donc son Fred Simian, ce Bored Ape spécifique. Et il a retrouvé, parce que c'est sur la blockchain, il a retrouvé l'utilisateur et le compte Twitter de l'utilisateur chez qui ça a atterri. C'est un type qui s'appelle Darkwing84 et c'est passé par plusieurs personnes, donc on ne sait pas si c'est lui qui l'a affiché ou pas. Mais quoi qu'il arrive, alors il a été bloqué. Maintenant, il est sur le portefeuille de Darkwing, il ne peut plus bouger, il a été bloqué par OpenSea. Et Seth Green essaye de parler sur Twitter à Darkwing depuis des jours pour récupérer son NFT. Il n'y arrive pas. Et tout ça s'arrêterait là, ça serait un petit peu triste, mais bon, sans plus, s'il n'y avait pas en plus la question des droits. Parce que, souvenez-vous, je vous disais à l'instant, il a développé une série animée basée sur son NFT. Sauf qu'il s'est fait voler le NFT. Lui dit et que, en fait, avec le NFT, est inclus, pas légalement, mais enfin dans le contrat du NFT, sont inclus les droits de propriété intellectuelle du NFT. Donc, si le NFT n'est pas en ta possession, dans ton portefeuille, eh ben, tu n'as pas les droits sur ce NFT. Alors lui, Seth Green, il dit non, non, mais il n'y a pas de problème, ça s'est fait voler, donc j'ai quand même les droits, c'est un truc criminel, donc j'ai quand même les droits, mais on n'est pas du tout sûr de ça. Parce que le principe du NFT, c'est que justement, quand tu as la possession du NFT, bah, tu as les droits associés au truc. Donc oui, il se l'est fait voler, mais il ne l'a quand même plus, le NFT. Donc c'est tout un foutoir, pour ne pas dire autre chose. Et légalement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Alors, bon, ça fait de la pub à sa série, hein, honnêtement. Il peut acheter un autre NFT et le baser sur cet autre NFT. Ça lui aura fait de la pub. Mais c'est quand même quelque chose de notable dans cet univers incroyable.
Moi, impitoyable. J'adore le simple fait qu'un acteur aussi connu et probablement millionnaire, voire milliardaire que Seth Green se fasse avoir par un Dark Sasuke du 9-2. Je trouve ça fantastique, tu vois.
Oui, c'est vraiment le truc. Enfin, il a donné sa clé publique. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, voilà pour cette histoire de NFT. Encore quelques news rapides. Vous avez vu les traductions des termes de gaming de la dernière fournée de termes traduits en français. Celui qui fait le plus de bruit. Franchement, il y en a plein qui sont parfaitement bon, j'ai trouvé. Il y en a un qui a fait beaucoup de bruit, c'est streamer, qui a été traduit par l'Académie française en c'est joueur de jeux vidéo. Non, pardon, joueur en direct. Je dis des bêtises. Joueur en direct. Sauf que évidemment, streamer, c'est pas que joueur. Il y a plein de gens qui font plein de choses sur Twitch. En l'occurrence, là, moi, je suis un streamer de podcast. Mais podcasteur en direct, ça irait, mais je ne suis pas un joueur en direct, généralement. Maxime, est-ce que tu te... Oui, pardon, Mathilde ?
Rien, je dis juste que c'est assez réducteur.
Oui. Bon, ce n'est pas le plus grand problème qu'on ait dans ce monde, hein, je dirais. Mais Maxime, je pense que tu te sens attaqué quand même, un petit peu.
Non, pas attaqué. C'est juste, en fait, ça me fait un petit peu sourire, l'Académie française, quand ils traduisent des choses comme ça, parce que c'est quand même... Leur mission, normalement, est censée de faire évoluer la langue. Mais évidemment, une langue évolue naturellement, quoi, par le contact, par les gens, etc. Et c'est plus petit à petit devenu, je trouve, un traducteur de mots à destination du troisième âge, plus qu'autre chose, une sorte d'urban dictionary, tu vois. Et ça m'amuse à chaque fois, en fait, où le simple fait qu'ils veulent absolument traduire tous les termes aussi, tu sais, alors que, bah, je sais pas, même dans la langue anglaise, il y a énormément de mots d'emprunt du français. Il y a touché, il y a niche, il y a des tonnes et des tonnes de choses. Je sais pas, ça me fait juste sourire parce qu'au bout, qui va utiliser les termes qu'ils utilisent, tu vois ? À quel moment on fait un brouhaha et un mot dièse, tu vois ? Enfin, voilà, c'est mignon. Okay. Continuons, quoi.
Mais tu prends les exemples de ceux qui sont peut-être un peu mal avisés, mais il y en a aussi qui fonctionnent. Ils traduisent, par exemple, des jeux comment, enfin il y a plein de termes qui sont un petit peu rentrés dans l'usage quand même. Encore une fois, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais je suis pas contre cette idée de dire bah il y a une telle invasion de termes anglophones parce que avec la globalisation et la prédominance de la culture américaine et anglophone, bah oui, il y a des mots anglais qui s'insèrent dans la langue française, et il y en a plus qu'avant, je crois, parce que les choses vont plus vite et on n'a pas le temps de les traduire. Tu vois, c'est un exemple que je prends parfois, on n'a aucun problème à dire ordinateur, par exemple, parce que ça a été décidé, bah, c'était un ordinateur plutôt qu'un computer. Mais ordinateur, c'est la traduction presque littérale de computer. Et si on avait commencé à utiliser computer, oui, ça nous aurait gêné de changer. Mais bon, c'est peut-être il faut le faire assez vite ou je sais pas, ça me gêne moins. Et puis il y en a qu'on retient parce qu'ils sont mauvais. J'ai pas les exemples de ceux qui sont bons, mais il y en a quelques-uns qui sont bons. Tout le monde retient Game as a Service ou qui est jeu dans les nuages ou un truc comme ça, enfin qui fonctionne pas du tout, enfin qui est carrément pas juste. Mais il y en a aussi qui fonctionnent et je les retrouve pas là. Donc bon, bref.
Non, mais faut, je suis d'accord avec toi. Après, ça fonctionne. Enfin, tu vois, c'est juste le truc, c'est que ça me fait sourire en fait. À mes yeux, c'est quelque part un peu mignon, tu vois.
Ouais, c'est genre, regarde, les vieux essayent de comprendre ce qu'on dit. C'est ça.
Un peu, j'avoue, tu vois, mais sans vouloir être hautain face à ça, tu vois, c'est juste que je me sens pas particulièrement concerné et que je suis pas choqué par l'intégration de plein de mots dans la langue, parce que le pire étant que...
Tu vas continuer à dire streamer, quoi, c'est ça que tu nous dis.
Bah, oui, et en même temps, on va le faire, parce que je vais pas me dire je suis un joueur de jeux vidéo en direct, je sais pas, alors que là, on est en train de faire un podcast, justement, tu le disais, mais le truc, c'est que je trouve qu'on oublie aussi que même quand on emprunte un mot à l'anglais, on a tendance ensuite à le franciser. Mmh. Tu vois, on se le réapproprie, en fait. Et j'aime ma langue comme ça, quand on joue. Ouais. Tu vois, la langue, pour moi, c'est un truc de jeu. C'est un outil de jeu, tu vois. Donc, continuer, c'est cool. Je trouve ça mignon, ça fait plaisir. Ça peut aider des personnes qui ne sont pas forcément liées à ça, de comprendre un mouvement. Maintenant, si tu me demandes si ça m'impacte... Boop.
Ouais,
c'est cool.
Donc, tu vas pas dire hyper joueur pour hardcore gamer ou rétro jeu pour rétro gaming. Bon, okay.
Non, pas trop, non. Mais merci. Merci beaucoup.
Street View, Google Street View, a 15 ans et ils ont sorti sur les mobiles un outil qui était déjà disponible sur le web, qui est la possibilité d'aller regarder les archives de Street View. C'est hyper marrant. Vous allez dans Google Maps et vous lancez Street View et vous pouvez aller trouver toutes les images jusqu'à, bah oui, il y a 15 ans pour les premières et voir l'évolution de vos environnements. Alors aujourd'hui, c'est juste marrant, mais imaginez dans 100 ans, bon, si Google existe encore, on pourra avoir les archives comme ça de chaque rue, de chaque endroit. Ça sera hyper intéressant, je pense. C'est de l'archéologie numérique. Bon, un autre sujet un petit peu difficile. Les utilisateurs de... Non, pas les utilisateurs. J'en perds mes mots. Les tueurs de masse aux États-Unis, on se rend compte qu'ils utilisent de plus en plus les options de vie privée qu'on défendait il y a un instant, hein, sous différentes formes, pour communiquer avec notamment des messages qui disparaissent après quelques temps, après avoir été postés. Et du coup, ça devient hyper difficile d'aller investiguer derrière parce que ils utilisent des messageries qui font disparaître les messages au bout de quelques temps, donc il n'y a plus aucune trace. Et c'est une tendance que semble noter le Washington Post, d'après leur enquête. Bon, je ne sais pas s'il y a forcément des commentaires à dire là-dessus, à donner là-dessus.
Le paradoxe permanent.
Ouais.
Ouais. Parce que c'est les mêmes outils qui ont permis aussi des révolutions sociales dans des pays plus liberticides, on va dire, qui aujourd'hui sont aussi utilisés pour des choses affreuses de la sorte, quoi.
C'est vraiment compliqué, ce genre de discussion, parce que il est tellement facile de conclure « Ah bah oui, regardez, les outils ne sont que ce qu'on en fait. » Et donc, oui, il y a des gens qui l'utilisent pour faire des trucs bien, pour faire des trucs pas bien, mais ces outils, ils sont neutres, ils sont agnostiques. Et peut-être que j'aurais dit ça il y a quelques années, mais je crois qu'aujourd'hui, oui. Alors ça, c'est un problème, effectivement. La question des messageries privées et du secret du chiffrement, par exemple, qui est un petit peu sur la même ligne, c'est vraiment compliqué parce qu'effectivement, on l'utilise pour garder nos communications privées d'espions qui pourraient nous l'utiliser pour des choses critiquables. Mais oui, clairement, on peut ensuite l'utiliser pour communiquer de manière privée, pour faire des choses peu recommandables. Et je crois que là, j'ai même pas de réponse, mais il est possible d'étendre la discussion, le raisonnement, à des choses où ça ne s'applique plus, à mon sens, et à dire, par exemple, oui, les réseaux sociaux, t'as qu'à pas suivre les gens que t'aimes pas, où il y a vraiment des problèmes systémiques, dont on a parlé depuis le début de l'émission, donc je ne vais pas me relancer là-dedans, mais il y a des problèmes systémiques qui font que ça a des effets négatifs. Et je ne sais pas si on est déjà à un état où on fait la distinction entre ces différentes problématiques qui ne peuvent pas, à mon sens, être traitées de la même manière. Mais...
Je crois que par les questions de complot, on commence un peu à différencier. Enfin, en tout cas, de passe. Quoique non, il y a aussi eu des plateformes ouvertes.
Il y a, pardon.
Je m'auto-clash. J'allais parler de comment les théories du complot se sont répandues. Je crois que c'est au Brésil, donc c'est beaucoup par WhatsApp. Donc, communication plus privée que si on passe par des murs Facebook, quoi. Mais en fait, souvent, ce sujet-là est lié à Trump. Et Trump, lui, c'est plutôt passé par des boards ouverts, genre Reddit et compagnie. Donc,
Bah,
ça sert à rien ce que je dis.
c'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais il y a effectivement une utilisation de groupes privés pour des théories du complot de plus en plus sur WhatsApp et d'autres outils de ce type. Et il y a des groupes regroupant bah, des centaines, des milliers de personnes qui vont diffuser des informations et qui sont privées. Et parfois, que ce soit sur Telegram ou d'autres, bah, relativement chiffrées. Je sais pas si, s'il y a une solution à ce genre de choses, c'est un truc auquel on revient parfois, c'est peut-être. Du travail de police un petit peu plus classique, c'est-à-dire d'essayer d'infiltrer ces groupes et de faire comme on l'imagine un travail plus normal, enfin plus traditionnel, qui n'est pas d'aspirer toutes les données et puis de regarder ce qu'il y a dedans, même si ça peut être pratique effectivement, mais d'essayer d'infiltrer les groupes et de comprendre.
Ouais, pour les questions de terrorisme, moi je crois qu'il y a beaucoup ça. Hein.
Bien sûr,
Enfin, c'est
bien
beaucoup ça
sûr.
qui manque. Surtout les questions de suprématie blanche, enfin, et des attaquants, là, des derniers attentats aux États-Unis.
Ouais.
Dans le total des 12 000 articles qui ont été écrits, il y a quand même beaucoup de rapports, de messages violents, notamment sexistes, mais aussi évidemment racistes, qui ont été publiés sur des choses publiques, et il n'y a pas du tout eu d'action prise pour aller vérifier ce qui se passait, pour suivre la personne, pour prévenir les problèmes, quoi.
Je sais pas si on descend, bon là c'est pas du tout un sujet sur lequel je suis expert, mais si on descend au niveau de la personne spécifiquement qui a commis ces actes, je sais pas s'il est, enfin c'est tellement une fourmi dans une fourmilière, s'il est possible de la repérer ou pas, je sais pas.
C'est plus
Enfin.
dans les cercles, dans les cercles masculinistes, dans les cercles et sur les forums de discussion et les endroits où se réunissent les adeptes bah, de la théorie du grand remplacement, par exemple, parce que je crois que c'est le tueur du Texas
Tout
qui
à
a
fait, ouais.
publié encore un
Ouais.
manifeste de 180 pages disant que la fertilité des blancs était en train de péricliter, etc. Ça, c'est à la fois
Je...
raciste et sexiste, hein.
Tout à fait.
Bon.
Mais ce que je me demande, en fait, c'est que oui, il est évidemment possible d'infiltrer ces milieux. Enfin, c'est même pas de les infiltrer, ils sont hyper ouverts. Mais je me demande s'il est possible de repérer la personne parmi les milliers qui vont être dangereuses, qui
Ouais,
va
je sais
finir
pas.
par passer à l'acte. En même temps, on a fait des choses pour essayer de trouver des terroristes externes qui semblent être un travail d'une ampleur qui n'est pas incomparable. Donc, oui, peut-être. Bon, je ne sais pas. C'est un sujet
Et
que je
puis
pense
après, il y a le
que.
sujet de la régulation des armes aux États-Unis aussi.
Oui, ça, évidemment, oui, c'est un truc. C'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. Clairement, c'est un autre
Voilà,
problème
c'est ce que
essentiel.
j'allais dire, c'est qu'on a tendance, du coup, dans ce genre de truc, à essayer de se tourner humainement vers des choses qu'on connaît, parce qu'on essaie de chercher des solutions dans des trucs qu'on connaît. Donc, on va se tourner vers potentiellement les applis en se disant, bah, peut-être que. Il y a toujours eu ce débat entre sécurité et liberté, où est-ce qu'on met le curseur, et je pense que c'est un débat qui est juste humain et qu'on aura toute notre vie. Mais effectivement, il y a d'autres strates, en fait. Il y a toujours des couches à ces problèmes qui sont difficiles à établir, notamment les fusils, la liberté d'accessibilité à des fusils ou des trucs comme ça, effectivement, au travail policier, d'investigation, de choses comme ça. C'est là où on essaie d'être utile, donc on va se tourner vers des trucs, genre les messageries, en se disant, bah, il faut qu'on réfléchisse à ça. Mais du même temps, il y a tellement de strates qui nous passent complètement au-dessus parce qu'on n'est pas dedans, que c'est vraiment compliqué d'avoir une opinion vraiment bien construite sur la chose, quoi.
Ouais. On est d'accord. Bon, bah écoutez, on n'aura pas trouvé beaucoup de solutions aux grands problèmes du monde aujourd'hui, mais on aura au moins posé quelques questions. C'est peut-être une première étape. Ah, c'était
Ça
un
fait du très
épisode.
sérieux pour notre
Ouais,
première
c'était.
apparition, Mathilde et moi, là.
Ouais, j'ai presque envie de m'excuser auprès de vous pour ces sujets aussi
À la base, on fait
lourds.
des blagues, hein, vous inquiétez pas. Hein.
Vous savez quoi, on sera heureux de revenir la semaine prochaine avec des OS, des nouveautés iOS sans importance après la conférence d'Apple. Mais je vous remercie tous les deux très chaleureusement de m'avoir aidé à porter collectivement sur nos épaules ces quelques sujets qu'on a explorés. Et je ne veux pas diminuer non plus leur importance, hein, c'est des sujets qu'il est important de traiter. et auquel il est important de réfléchir, parce que oui, les nouveautés iOS, c'est sympa, mais comme je disais la semaine dernière, avec les histoires de sucre qui est bon à consommer et sympa, bah parfois, il faut aussi quelques légumes à côté, avec les concombres et les carottes. Et oui, c'est important de comprendre ces sujets-là, même si ce n'est pas les trucs les plus fun à écouter ou dont on discute. Bah oui, il est important de le faire aussi parfois. Donc un grand, grand merci à tous les deux. Et bah, si les gens veulent vous retrouver peut-être après l'émission, Mathilde, est-ce que tu pourrais nous dire où tu officies en ligne, que ce soit sur Twitter ou ailleurs ?
Principalement sur Twitter, donc c'était @mathildesl, enfin je crois que tu vas le mettre dans la description.
Je le mettrai dans les notes de l'émission, pas de souci.
Ouais, et sinon un peu sur LinkedIn, mais bon, c'est surtout pour montrer mes articles.
D'accord, très bien. Et j'imagine qu'ils sont sur Twitter également, les articles.
Ouais, c'est vrai.
Parfait. Maxime, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Ouais, bah déjà, merci infiniment à vous deux, c'était vraiment passionnant de parler avec vous. Moi, c'est très simple, c'est Otaksu absolument partout. Twitch, Twitter, Instagram sont les trois où je suis le plus. Et après, suivez les tweets et on devrait se retrouver très facilement.
Parfait. Et bah pour toi aussi, le compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, partout. Vous retrouvez sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le Discord. Si vous voulez parler de trucs plus légers, vous pouvez vous retrouver sur Discord. D'ailleurs, il y a des trucs sérieux aussi dont on parle de temps en temps. Le lien est sur notepatrick.com. Le Twitch, c'est NotePatrick aussi, mais vous pouvez retrouver le lien sur notepatrick.com. Et le Patreon, le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdv. Tech pour m'offrir le concombre et le conseil de la carotte, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Quand vous mettez les clés dans le bol, quand vous arrivez chez vous, cling, Patrick, et vous pouvez devenir un formidable patriote et bénéficier des nombreux bonus auxquels les patriotes ont droit, comme par exemple l'after show. L'after show, aujourd'hui, je vous proposerai de parler peut-être encore un petit peu d'Apple et de la WWDC. On en a parlé un tout petit peu, mais on va se faire plaisir avec les patriotes dans un instant. Si vous êtes patriote, on se retrouve tout de suite pour l'after show. Et si vous ne l'êtes pas, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bises. Merci encore à Maxime et Mathilde et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Des bisous tout le monde.
Merci.
Et je vais quand même mettre le générique.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.